Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap qui continue avec cette semaine à mes côtés Clovis Cornillac qui sera donc mercredi prochain le 3 novembre à l'affiche de la comédie Si on chantait. Un film qui donne envie d'être heureux, en tout cas qui met de bonne humeur, ça c'est certain. Et Clovis, maintenant, si vous voulez bien, on va parler des films de votre vie. Alors le cinéma, on le sait, est rentré très tôt dans votre vie puisque vos parents étaient du métier, enfin sont du métier. Votre meilleur souvenir de cinéma, ce serait quoi?
Alors, il y a un film qui m'a extrêmement marqué, qui a compté beaucoup, c'est Taxi Driver. Taxi Driver, c'est un... je dirais Taxi Driver, Midnight Express, c'est des films que j'ai vus jeunes.
Violents ?
Oui, violents, mais en fait, oui, violents, parce que, voilà, c'est comme, on parlait de musique tout à l'heure, c'est comme des morceaux parfaits, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est juste à tous les endroits. Donc... C'est frappant, quoi, quand la justesse est partout et qu'elle est intelligente, qu'elle est inspirante, qu'elle te scotche. Enfin, voilà, il y a quelque chose, ouais, avec ce film de particulier.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Bon, on l'a mis en anglais, c'est tellement culte.
Ah bah, ouais, ouais. Mais souvent, c'est cette scène qui a été mise...
Dans la haine.
Puis qui a été mise en exergue, même avant la haine, mais qui est comme... c'est pour ça que dans la haine, il le reprend, parce que c'était... Mais concrètement, cette scène est super, mais une scène... hors d'un film, le film est vraiment formidable. Ce pauvre mec dans son taxi, il y a quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que intéressant d'aller revoir ce film dans l'époque dans laquelle on est, parce que attention, ouais. Pas si loin, quoi.
Non, c'est vrai, ça fait peur. Votre première grande émotion au cinéma?
Ma première... Ah bah oui, c'est forcément quand j'étais gamin, et c'est forcément un dessin animé, c'était Les Aristochats, parce que c'est le premier que j'ai vu au cinéma, et c'est un film, alors là pour le coup...
On est loin de Taxi Driver, évidemment.
Pas tant, parce que évidemment, heureusement, on va pas... Mais O'Malley, quand j'étais gamin, je me suis vraiment projeté dans O'Malley, j'étais O'Malley, quoi.
Qu'est-ce que vous aimiez?
C'est pas que j'aimais, c'est que je pensais pareil que ce gars, quoi, que le chat. Pour le coup, j'étais un chat de gouttière. J'étais pareil, duchesse, c'était pas possible. Il y avait quelque chose comme ça, et en même temps, de camaraderie avec ses potes, avec tout ça. Et donc, c'était... moi, j'étais dans les quartiers populaires et tout. Et puis, c'était ma manière de vivre. C'était ma manière de projeter la vie, quoi. Donc, c'est un souvenir très, très fort, parce que tu te dis... Ah, le cinéma, enfin en tout cas, c'était un dessin animé, mais c'était un film, me parle.
Votre séance de cinéma la plus dingue?
Ça c'est Horror Picture Show, parce que c'est... Alors je sais pas si le cinéma existe encore et s'ils le font encore, mais Horror Picture Show, c'est... En fait, c'est un film musical et assez barré.
You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show.
Ce qui est fou, c'est que les gens dans la salle, en fait, le principe, c'est que ça se jouait dans une salle au Quartier Latin. Et en fait, t'avais tout le monde connaissait par cœur, était déguisé comme les gens du film, et à toutes les séances. C'était les séances le soir en général. Et donc, le spectacle était aussi bien dans la salle que devant l'écran. Et ils interagissaient avec l'écran. Donc, c'était
Oui, ils revivaient le film. Et ils balançaient du riz, c'est
tout,
ça?
Tout. Tu avais le riz, de la flotte, du truc. Ça chantait, ça hurlait. Les gens étaient maquillés comme dans le film. Enfin, voilà, il y a un délire. Donc, c'était, les séances les plus dingues.
On vous a transmis, Clovis Cornillac, un questionnaire pour préparer cette émission. Alors là, je vais grouper, puisque vous avez eu la même réponse pour trois questions. Le film que vous revoyez sans cesse, votre comédie romantique préférée et le film dans lequel vous aimeriez vivre. Et d'ailleurs, vous avez donné une réponse qui est souvent donnée dans cette émission, c'est Chantons sous la pluie.
Ah bah, c'est rigolo. C'est rigolo que ce soit souvent donné, tant mieux. Enfin, tant mieux parce qu'on sera plusieurs à vivre dedans, mais... Non, c'est un film...
À un moment donné, il n'y aura plus de place.
Ouais. Non, mais c'est un film... voilà, pour moi, ça fait partie des... comme on disait, il y a les chefs-d'œuvre, les Kubrick, enfin, La Nuit du Chasseur, enfin, Citizen Kane, tout ça, enfin, tous ces films qui constituent une réflexion sur le cinéma et sur une manière de filmer et tout ça. Et puis, il y a le cinéma que j'appelle une sorte de cinéma parfait, quoi. C'est-à-dire, Chantons sous la pluie... On parlait de musique tout à l'heure dans le cinéma, cette espèce de langage entre le corps, la danse, la musique, un espace complètement merveilleux avec une image à la Technicolor qui reste comme quelque chose de... un espace d'évasion fou, quoi. C'est un film parfait, drôle, avec des acteurs remarquables, parce qu'ils dansent et ils chantent de manière remarquable, une musique, enfin tout, je trouve que c'est... et puis c'est des grands films, ils sont longs, tu sais, c'est des beaux voyages, franchement c'est une réussite, ouais, il y a certains morceaux de musique comme ça où tu te dis, tiens voilà un morceau parfait, c'est un film parfait.
I'm singing in the rain. Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Ça fait partie des films que vous montrez à vos enfants, je suppose.
Oui, mais alors je veux toujours le montrer au bon moment. C'est-à-dire que la première fois soit surtout pas un moment d'ennui. Puis comme c'est des films que tu as envie de montrer en VO. Mes filles, elles l'ont découvert. Bon, maintenant, elles sont grandes, donc elles l'ont vu. Voilà. Mais par exemple, mon dernier là, j'attends parce que je veux pas qu'on rate le truc. Et puis c'est un film dans l'univers du cinéma, donc je pense que c'est tout ça aussi qui. C'est pas tous les films qui parlent de cinéma en général, tu passes toujours à côté. C'est jamais. Et là, il y a un aspect ludique incroyable.
Et surtout qui traverse les époques, on a l'impression que ce film, on va se le passer de génération en génération, qui restera.
Ah mais c'est pas une impression, c'est pour ça que c'est une sorte de film parfait dans son domaine, quoi.
Je rappelle, Clovis Cornia, que votre mère est une grande comédienne, Myriam Boyer. Je suppose qu'elle vous a emmené très tôt au cinéma, elle vous a fait découvrir comme ça aussi de grands films.
Alors non. On n'était pas... Myriam, nous, on a très peu d'écart d'âge. Et c'était quelqu'un de très impliqué. C'est quelqu'un de... Mais on n'est pas une famille d'intello. Donc, aller au cinéma, c'était une démarche qu'on faisait, je me souviens, tous les deux. C'était super. Mais par exemple, on n'allait jamais voir des vieux films. C'est pas du tout... non, on allait voir des trucs qui sortaient. Et en fait, en gros, par exemple, on se faisait une journée cinéma. Et l'idée, c'est moi, j'allais voir les films que je voulais voir et elle, les siens. Puis on se retrouvait entre les séances. Et donc, on se retrouvait, tu vois, hop, et puis on repartait chacun dans une salle. Et c'était un kiff pour moi, incroyable.
C'est génial.
Bah ouais, c'était top. Mais on n'a jamais été. Moi, même, je suis d'ailleurs pas cinéphile, je suis vraiment cinéphage. J'ai vu beaucoup, beaucoup de films de mon côté. Je suis parti tôt de la maison, donc. Mais j'ai toute la culture cinématographique. Nous, notre culture, on se l'est fabriquée, on s'est démerdé. En fait, on n'était pas du tout dans quelque chose qui pourrait sembler, je ne sais pas, un milieu arty, quoi. On n'était pas du tout là-dedans. On était très dans le travail populaire et plutôt aller au taf avec bonheur, mais pas du tout dans un esprit de famille d'artistes.
On n'était pas ça. Pas regarder les films parce qu'il faut, parce que c'est
même
le
pas,
film.
Même pas juste même notre culture, on n'en avait pas. Donc c'était quelque chose qui se fabriquait, mais qui n'était pas du tout lié. Les bouquins, il n'y en avait pas. Ça m'est venu très tard, mais je me suis mis à lire comme un fou dans mon coin. Mais c'est un truc qui... Tout est empirique chez nous, c'est pas du tout... pour nos enfants, enfin, je pense que pour mes enfants, pour ça, c'est autre chose. Ils sont nés au milieu de bouquins, de trucs comme ça et tout. Mais nous, on s'est fabriqué...
Et plus de transmission.
Ouais, on s'est fait... Mais en revanche, beaucoup d'amour.
C'est le plus important.
C'est en tout cas essentiel, c'est clair.
On passe au film que vous recommanderiez à un enfant.
La Grande Vadrouille, oui. La Grande Vadrouille, parce que voilà encore un film extrêmement bien réussi. Alors ça pourrait être La Grande Vadrouille comme ça pourrait être Rabbi Jacob, et je pense qu'aujourd'hui il faudrait presque plus Rabbi Jacob en premier.
Ce serait un Louis de Funès, quoi.
Ce serait un Houri. Et ce serait avec un sujet comme Rabbi Jacob, je trouve que c'est chouette. Ça ouvre l'esprit, ça se marre, c'est extrêmement intelligent, c'est swing. Il y a du côté enfantin avec le chewing-gum, avec tout ça. Et en même temps, il y a un sujet qui est quand même qu'on aurait du mal à pouvoir faire aujourd'hui. Donc je me dis, je pense à un film virtueux, drôle et virtueux, avec un génie qui est évidemment Louis de Funès, et puis d'autres acteurs autour qui sont formidables. Donc oui, je dirais peut-être en fait Rabbi Jacob et La Grande Vadrouille, et La Grande Vadrouille parce que c'est un chef-d'œuvre de la comédie à tout point de vue. Donc voilà, on va dire les deux collés, faites un goûter entre les deux.
Le film, alors là c'est plusieurs, il n'y en a pas en particulier, je dirais c'est un style. Les films que vos parents ont eu raison de vous faire découvrir.
Mais je pense que le genre du western, alors c'est, encore une fois, ce n'est pas mes parents, pour être tout à fait sincère, c'est en fait la télé. Parce que,
le film du dimanche soir.
Alors c'était pas le dimanche soir parce qu'on n'avait pas le droit. Il y avait l'école le matin, mais donc tu voyais que le début le dimanche soir. T'entendais t'entendais que le début. Non, mais c'était le mardi soir. Et le mardi soir, il y avait effectivement souvent ou un Tarzan ou des westerns. Et j'avoue que j'ai découvert les westerns. Et les westerns, ça a été une révélation absolue. C'est-à-dire, et je me souviens de moi, gamin, regardant la télé, me disant comment, avec une sorte de plaisir, tu sais, du cœur qui bat, du plaisir, en se disant comment on ne peut pas aimer un western, on aimera toute notre vie un western. J'étais convaincu, les chevauchés, il y avait quelque
paysage,
chose.
Le règlement de compte.
Tout. C'était, voilà, le western est un socle. À plein d'endroits, parce qu'il est souvent binaire, parce qu'il est souvent aventureux, parce que les personnages sont trop gros, enfin c'est des sortes de tragédies simples, et donc c'est un... Ouais, le western, mais je dirais plus, c'est pas vraiment mes parents, pour le coup.
Si je vous demande la bande originale de film qui vous met de bonne humeur.
Ah bah, alors, les Blues Brothers, parce que déjà, voilà encore un film à voir et à revoir, c'est-à-dire que c'est un duo d'acteurs incroyables. C'est la grande période de John Landis, qui est un réalisateur qui a marqué... Alors, il y a des films de lui qui ont mal vieilli, mais ce n'est pas de sa faute. C'est le cinéma des années 80, souvent, a un petit coup dans l'aile, parce qu'on était quand même habillés pas très bien à l'époque. Les lumières et les cadres ne sont pas toujours déments. Mais en revanche, parce que je pense à 48 heures, je pense à Les Loups-garous de Londres, ces films-là, ou Un fauteuil pour deux, c'est des films qui nous ont vachement marqués, qui ont un peu mal vieilli, même si je suis heureux de les revoir. Hein. Mais alors que les Blues Brothers, c'est impossible.
Bah, rien que par la partition musicale.
Ne serait-ce que la partition, mais pas que. C'est-à-dire que même graphiquement, même visuellement, même le jeu, même tout ça, et comme le film était, quand il est sorti, il était fou, il était complètement décalé. Du coup, ce décalage tient toujours.
Avec, on rappelle, hein, Dan Aykroyd, James Belushi, et puis surtout, et tous les guests, Aretha Franklin, James Brown.
Non, c'est dingo. Et puis, c'est un bon. Et cette bande musicale, elle est folle.
C'est quand même l'un des plus gros tubes ever.
Je sais pas, c'est énorme. De toute façon, ce qui est incroyable dans ce film, c'est que déjà il est jubilatoire. Tu prends un plaisir à regarder ce film-là. C'est voilà, je conseille à tout le monde vraiment, vraiment. Pour s'il y en a qui l'ont pas vu, quelle chance. Et puis ceux qui l'ont vu, quelle chance de le revoir. Et effectivement, les moments musicaux sont énormes.
La partition est dingue. Ah, ouais. Et alors pour terminer, la musique que vous écoutez pour vous motiver. C'est celle.
C'est
celle qu'on va découvrir, nous, un petit peu plus tard dans la saison.
Voilà, mais c'est sincère. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Le titre d'un film que j'ai réalisé, mais d'une chanson aussi. Je dirais que le film est un film, j'espère, très, très porteur et qui met du peps et de la joie et qui fait regarder peut-être le monde. C'est un film un peu décalé, mais qui fait regarder le monde avec le champ des possibles. Et c'est vrai que dans les différentes versions de la musique de Cole Porter qu'il a fait, c'est magnifique. Que ce soit Dario Moreno, que ce soit peu importe, il y en a plein qui l'ont chanté. C'est un morceau qui me file la pêche, quoi. Et bien avant de faire le film, c'est un morceau qui me file la pêche et mon compositeur a fait une musique pour le film en plus qui me file la pêche. Donc c'est pas simplement pour faire référence à moi. Non, c'est
non,
vrai.
Mais je sais que vous êtes sincère. De toute façon, on vous connaît pour votre sincérité. C'est aussi pour ça qu'on vous aime, Clovis Cornillac. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Je rappelle que Si on chantait sera en salle donc mercredi prochain, le 3 novembre.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.